RFI, bienvenue, bonjour, il est 8h en temps universel et à Conakry, 9h ici à Paris. Dans 10 minutes, appel sur l'actualité, vos questions à la rédaction et puis notre débat sur la transition qui s'enlise en Guinée. On en parle juste après le journal de Clotilde Dumay. Bonjour.
Bonjour Charlotte, bonjour à tous. L'hommage des présidents américains à leur prédécesseur, Jimmy Carter, décédé à l'âge de 100 ans. Les dirigeants étrangers saluent également le parcours de ce 39e président des États-Unis, bien plus populaire après son unique mandat. Au Tchad, on attend désormais les résultats des élections législatives, provinciales et communales. Le scrutin s'est globalement déroulé dans le calme, mais les observateurs notent une faible participation. Et puis en Croatie, le président sortant est passé tout près d'une réélection dès le premier tour, mais Zoran Milanovic va finalement devoir affronter son rival conservateur dans 2 semaines. La Chine exprime ses profondes condoléances après le décès de Jimmy Carter. Le chancelier allemand Olaf Scholz salue un grand médiateur pour la paix au Moyen-Orient. Dernière réaction qui s'ajoute aux nombreux hommages internationaux rendus après la mort de l'ancien président américain à l'âge de 100 ans. Aux États-Unis, Joe Biden a décrété une journée de deuil national pour le 9 janvier prochain. Depuis l'annonce de la mort du 39e président des États-Unis, ses successeurs Lumna Nakhi ont eux aussi tous réagi.
Oui, à commencer par Joe Biden qui a interrompu ses vacances pour prononcer quelques mots devant les caméras. Le président était déjà sénateur lorsque Jimmy Carter est arrivé à la Maison Blanche en 1976.
Jimmy Carter restera un modèle de ce que signifie vivre une vie pleine de sens, une vie de principes, de foi, d'humilité. Il a dédié sa vie aux autres.
Des qualités humaines mises en avant aussi par Bill Clinton et Barack Obama. Il nous a appris ce qu'est de vivre avec grâce, dignité et justice, a écrit Barack Obama. Donald Trump a lui aussi rendu hommage à Jimmy Carter, un homme qui a, je cite, « tout fait pour améliorer la vie de tous les Américains. Seuls ceux qui ont eu l'honneur de servir en tant que président connaissent l'énorme responsabilité qu'est de diriger la plus grande nation de l'histoire », a-t-il ajouté.
Un président qui n'a finalement passé, Lumna, que 4 ans au pouvoir.
Oui, Jimmy Carter restera le président d'un seul mandat. D'ailleurs, lorsqu'il a reçu le prix Nobel de la paix en 2002, l'un des membres du comité a prononcé cette phrase « Jimmy Carter n'a pas été le président le plus efficace, mais il est certainement le meilleur ex-président de l'histoire des États-Unis ». Et cette phrase, eh bien, elle résume pas mal effectivement la carrière de Jimmy Carter. Son mandat a été marqué par d'importantes crises, en interne comme sur le plan diplomatique, avec entre autres la désastreuse affaire des otages de l'ambassade américaine en Iran. Même s'il aura tout de même réussi à négocier la paix entre l'Égypte et Israël à Camp David, sa cote de popularité était au plus bas lorsqu'il a perdu la présidentielle face à Ronald Reagan. Après la Maison Blanche, Jimmy Carter, à travers sa fondation, a œuvré pour la paix dans le monde, pour les droits humains, pour la démocratie durant des décennies, au point que son bilan a été finalement réévalué et celui que Washington a longtemps considéré comme, je cite, un plouc venu d'une exploitation agricole de Géorgie, a finalement réussi à s'imposer comme une figure de la politique américaine, un homme profondément attaché à sa terre natale, à sa foi et à sa femme Rosaline, décédée l'année dernière.
La correspondance de Lumna Anaki. Le Premier ministre français persiste. Reconstruire en 2 ans, c'est l'objectif qu'il faut se fixer, dit ce matin François Bayrou en déplacement à Mayotte. 2 semaines après le passage du cyclone Chido, il doit détailler en fin de journée un plan pour apporter des réponses rapides aux Mahorais. François Bayrou qui assure que les rumeurs sur des milliers de morts ne sont pas fondées. Les décès se comptent selon lui en quelques dizaines ou quelques centaines. Le dernier bilan officiel fait état de 39 personnes tuées et plus de 5600 blessés. La Corée du Sud lance une inspection complète de tous les Boeing 737-800 utilisés par des compagnies nationales. La décision prise après le crash de l'un de ces appareils qui a fait 179 victimes. Le pays a décrété un deuil national de 7 jours à partir d'aujourd'hui et les drapeaux ont été mis en berne. C'était le 3e scrutin en un an au Tchad après le référendum constitutionnel et l'élection présidentielle. Un peu plus de 8 millions de Tchadiens étaient appelés ce week-end à choisir leurs députés, maires et représentants locaux. Dernière étape de la transition entamée depuis la mort en 2021 d'Idriss Déby Itno. Pour le moment, l'Agence nationale de gestion des élections n'a pas communiqué de taux de participation, mais les observateurs notent une mobilisation assez faible. Le récit Anjamena de Nadia Ben Mafoud.
C'est dans un contexte d'appel au boycott de nombreux partis d'opposition, notamment des transformateurs de succès Masra, que les Tchadiens se sont rendus aux urnes hier. Le scrutin dénoncé par une majorité d'opposants comme gagné d'avance par le MPS, le parti au pouvoir, n'aura pas soulevé les foules comme les précédents, explique le rapporteur général de l'Observatoire des associations pour les processus électoraux au Tchad, Gombo Breyouzibé. Globalement, le vote s'est déroulé dans le calme, pas d'incident majeur signalé à ce stade. Les résultats définitifs doivent être annoncés le 15 janvier par l'Agence nationale de gestion des élections. En attendant, reste encore à éclaircir les raisons précises de ce manque d'engouement des électeurs. Les prochaines élections seront les sénatoriales en mars 2025, des élections indirectes cette fois qui concerneront les grands électeurs élus ce week-end. Nadia Ben Mahfoud, N'Djamena, RFI.
Une faible participation aussi en Croatie où le président sortant va devoir passer par un second tour malgré un score élevé hier au premier tour de la présidentielle. La précision du correspondant de RFI dans la région, Laurent Rouy.
Il s'en est fallu de peu pour que le social-démocrate Zoran Milanovic ne l'emporte au premier tour. Mais avec 49,11% des suffrages, le président sortant rate de peu la majorité absolue. Il devra affronter le conservateur Dragan Primorac qui a recueilli 19,37% des voix. Avec un tel écart, il semble difficile que la victoire échappe à Milanovic au second tour le 12 janvier. Le résultat a de quoi surprendre car aux élections législatives d'avril, les Croates votaient en faveur du parti conservateur HDZ, celui-là même qui soutient Dragan Primorac, faisant barrage à Milanovic qui aspirait à devenir Premier ministre. Ces derniers mois, la vie politique croate avait été marquée par les joutes verbales entre le président Milanovic et le premier ministre Andrei Plenković, notamment sur le soutien à apporter à l'Ukraine. Milanovic dénonce l'agression russe mais critique l'aide occidentale, ce qui lui a valu d'être taxé de pro-russe. La Croatie a tout de même envoyé une aide militaire à l'Ukraine pour un montant de 300 millions d'euros. Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
On en sait un peu plus sur ce que prévoit le nouveau pouvoir à Damas, 3 semaines après la chute de Bachar al-Assad en Syrie. Le chef du groupe islamiste Ayat Tahrir al-Sham prevoit de réécrire la constitution d'ici 2 ou 3 ans. Il l'a indiqué au cours d'une interview à la chaîne saoudienne Al Arabiya. L'organisation d'élections en Syrie pourrait aussi prendre 4 ans selon lui. En France, Dominique Pellicot a décidé de ne pas faire appel de la décision rendue par la cour criminelle du Vaucluse. Il a été condamné à 20 ans de réclusion pour avoir drogué sa femme, Gisèle Pellicot, l'avoir violée et l'avoir livré sexuellement à des dizaines d'hommes. Un appel contraindrait Gisèle Pellicot à une nouvelle épreuve, ce que Dominique Pellicot refuse, selon son avocate. Un nouveau procès se tiendra malgré tout pour plus d'une quinzaine des 50 autres accusés qui, eux, ont fait appel. Le retour de la grippe aviaire, toujours en France. Un foyer hautement pathogène a été détecté vendredi dernier dans un élevage de volailles de l'Eure, au nord-ouest de Paris. Face au risque de propagation de la maladie, des mesures d'éradication immédiate des volailles ont été prises, selon un arrêté préfectoral. La découverte de ce foyer de grippe aviaire intervient 10 jours seulement après l'abaissement, Igor Strauss, du niveau de risque sur le territoire français.
Alors que la France était placée en risque élevé depuis août, le ministère français de l'Agriculture a annoncé le 17 décembre dernier abaisser le niveau de risque lié à la grippe aviaire sur le territoire métropolitain. Une bouffée d'oxygène pour la filière d'élevage de volailles, mais de courte durée. La découverte de ce nouveau foyer hautement pathogène dans l'Eure vient rappeler que le virus H5N1, responsable de la grippe aviaire, circule toujours chez les oiseaux sauvages, en particulier dans les couloirs de migration. L'épizootie sévit sur tous les continents et provoque de lourdes pertes. En 3 ans, plus de 300 millions de volailles sont mortes ou ont dû être abattues en raison du virus. En France, où la maladie est présente en continu depuis 2020, les oiseaux euthanasiés se comptent également en millions et les pertes économiques en milliards. Pour casser cette spirale, le gouvernement a rendu obligatoire depuis l'automne 2023 la vaccination dans les élevages de plus de 250 canards. Certains scientifiques, eux, s'inquiètent pour la survie des espèces sauvages et rappelle que certaines populations d'oiseaux marins ont été décimées par la grippe aviaire.
La précision d'Igor Strauss, le dernier vainqueur du Vendée Globe ne pourra pas défendre son titre. Le français Yannick Bestaven abandonne après quasiment 50 jours en mer, victime d'une importante avarie sur son système de barre vendredi dernier. Il n'a pas réussi à réparer les dégâts. Pour le moment, c'est Johan Richomme qui fait toujours la course en tête, mais il est suivi de très près par Charlie Dalin. Puis en football, l'AC Milan devrait, selon la presse italienne, se séparer de son entraîneur Paolo Fonseca, en poste depuis juillet. Le club milanais a dû se contenter d'un match nul hier à domicile face à l'AS Rome, un partout. Il est 9h10 à Paris. La suite sur RFI s'appelle sur l'actualité avec Charlotte Hydrac.